va revenir sur une polémique autour d'une tribune parue chez nos confrères du Monde, une tribune signée Vincent Lemire et Elie Barnavi himself, qui exige de la France et de l'Europe des sanctions contre Israël. Alors on en parle, vous en parlez Lise, ce matin avec Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal, que je laisse en votre compagnie.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, une des choses qui choque le plus, Raphaël, dans cette tribune, c'est qu'elle est signée notamment par Elie Barnavi, qui se présente comme historien, mais qui a quand même été ancien ambassadeur d'Israël en France.
Oui, il a eu ce poste, mais à part ce moment de gloire dans sa carrière, M. Barnavi, c'est personne en fin de compte. Et surtout, il ne représente personne. Il n'est la voix que d'Elie Barnavi. Je m'étonne, d'ailleurs son co-signataire, de même, ce sont des personnes qui ne sont pas même des chefs de file, qui ne représentent pas un mouvement ou une tendance politique spécifique. Ce sont surtout, dans les deux cas d'ailleurs, et surtout celui de Barnavi, dont je connais bien la carrière, des personnes avec des égos très gonflés, qui cherchent à se faire remarquer à bon marché. Et c'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de cas, Elie Barnavi est invité à donner des conférences, parce qu'il dit ce que les ennemis d'Israël veulent entendre. Ça lui procure donc beaucoup d'invitations. Ceci étant dit, il est un personnage extrêmement dangereux dans ce sens-là, puisque justement, il est cité comme israélien, comme éminence historique, professeur. Il n'est pas du tout une éminence, c'est quelqu'un qui, même sur le plan académique, ne brille aucunement. Et c'est aussi et surtout, parce que je l'ai entendu parfois même d'un public juif, un faux intellectuel. C'est quelqu'un qui n'a aucun panache sur ce plan-là. Donc c'est un peu étonnant de voir qu'on accorde quelque attention que ce soit. C'est comme si demain matin mon voisin de palier exprimait dans une lettre ouverte sa façon de voir le monde. Ça n'intéresse personne, sauf évidemment nos ennemis qui sont trop contents d'avoir sous la main un traître à l'État d'Israël et au peuple juif.
Est-ce que justement, Raphaël, ça ne repose pas la question du fait que nous sommes, nous les Juifs, souvent nos pires ennemis? C'est l'écrivain israélien David Grossman qui a qualifié de génocide la situation à Gaza, par exemple.
Qui est aussi l'un de nos pires ennemis, et c'est typiquement juif, mais peut-être pas seulement. En tous les cas, ce qui caractérise ce phénomène de haine de soi, ce n'est pas tellement la haine de soi, c'est la façon dont cette haine de soi de certains juifs est exploitée par les antisémites. C'est quelque chose qui est extrêmement utile à l'antisémitisme. Et c'est là que le bât blesse. Donc, M. Barnavi a tout à fait le droit de penser ce qu'il pense, de dire ce qu'il dit, liberté d'opinion, liberté d'expression. Le problème, c'est que, en tant que personne responsable, il devrait s'en rendre compte. Et à mon avis, il s'en rend peut-être très même compte, puisque, comme je l'ai dit, il compte là-dessus pour être invité dans les colloques, de la gravité de ses propos, dans la mesure où ces propos vont être exploités par des gens qui sont néfastes à la paix qu'il prône, hein, parce que M. Barnavi, soi-disant celui qui brandit le drapeau de la paix, mais il le brandit au sein d'un public qui est le sien et qui est un public qui est contre la paix et qui est pour la destruction de l'État d'Israël. Il devrait être assez intelligent, s'il l'était, pour bien voir à quel point ses propos vont être utilisés, déformés à l'encontre justement de toute initiative possible de paix.
Alors justement, il y a quelque chose qui m'a interpellée aussi, Raphaël Jérusalmi, dans cette tribune, c'est que les deux personnes en question disent que Steve Witkoff plaide pour un accord global, c'est-à-dire la libération de tous les otages contre un arrêt définitif de la guerre, ce que le Hamas est prêt à accepter. Ce n'est pas du tout les échos qu'on a partout ailleurs, que le Hamas est prêt à accepter un accord, quel qu'il soit.
Oui, alors si on rentre un petit peu dans le détail, on voit l'aberration de ces déclarations, c'est évident. Le plus aberrant, c'est qu'on met le Hamas d'un côté, qui est une faction terroriste sur un pied d'égalité avec un État souverain, l'État d'Israël, libéral et démocratique, on aime Israël, on n'aime pas Israël, c'est un État souverain, c'est une démocratie jusqu'à présent, face à qui se trouve une faction terroriste reconnue comme faction terroriste par les pays mêmes qui prônent aujourd'hui la création d'un État palestinien. Et donc là, il y a évidemment, je vais parler de liberté d'opinion, alors évidemment, j'ai la liberté de mon opinion en critiquant l'opinion de Monsieur Barnaby et en disant que ce monsieur est un imbécile et certainement pas un professeur d'histoire lorsqu'il raconte des bobards. Il n'y a pas d'autre mot pour justifier ses propos. Il justifie ses propos, c'est quand même deux, les co-signataires sont des historiens, des personnes qui occupent des postes d'enseignants. Mais ce ne sont pas les seuls, hein. Il y en a beaucoup dans ce genre-là. Nous avons eu affaire aux historiens post-sionistes, par exemple. L'histoire, c'est facile, ça se manipule, ça se déforme pour obtenir le propos qu'on désire, ce qui est fait de façon tout à fait malhonnête sur le plan intellectuel par deux personnages qui, comme je l'ai dit, arrivent à duper un certain public. Alors il y a le public anti-israélien, mais il y a un public qui se laisse impressionner par les titres académiques, par la façon de se présenter. Monsieur Barnaby parle très bien, il présente très bien, c'est un bel homme, voilà, donc il en jette. Et c'est mauvais pour Israël, parce que c'est dangereux, c'est récupéré, comme je l'ai dit, et ça, qu'on le veuille ou non, c'est quand même irresponsable de la part de Monsieur Barnaby. Il sait très bien par qui ces propos vont être récupérés. En plus, et je termine là-dessus, il ne représente personne. Il exprime son opinion à lui tout seul, ça n'intéresse personne. Voilà.
Alors, en tout cas, il s'adresse directement à Emmanuel Macron et il lui demande des sanctions immédiates et concrètes, je ne sais plus le mot, paralysantes. Voilà, immédiates et paralysantes sur Israël, et il parle notamment d'interdire à tous les ministres israéliens de venir sur le territoire européen. C'est quelque chose d'envisageable, ça, Raphaël Jérusalemi?
Aujourd'hui, malheureusement, tout est envisageable. On interdit à des poètes de venir déclamer de la poésie parce qu'elle est en hébreu. Donc voilà où nous en sommes. On est retourné plus bas qu'au Moyen-Âge. Donc moi, sur les antennes de Radio Judaïka, voici ma lettre ouverte au président Macron en tant que Raphaël Jérusalemi, professeur émérite de n'importe quoi, où je demande à Emmanuel Macron de prendre les mesures qui s'imposent à l'égard du Hamas et de lire les œuvres de mon co-auteur Mohamed Sifaoui sur la présence en France, à Paris, de membres du Hamas et du Hezbollah qui blanchissent de l'argent sur le sol français, et de prendre les mesures qui s'imposent pour lutter contre le terrorisme global et le terrorisme anti-israélien. Je demande. Et vous pensez véritablement que ma lettre ouverte va être lue et va intéresser Emmanuel Macron? Elle ne caresse même pas dans le sens du poil.
Et pour finir, en tout cas, Raphaël, cet appel à Emmanuel Macron, non seulement à des sanctions, mais qui justifie aussi cette reconnaissance de l'État de Palestine, dont on sait que le timing a été particulièrement violent pour les Israéliens et notamment les familles d'otages. Est-ce que ça va conforter la France et l'Europe dans cette voie-là?
Ah bah bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Le danger de ce genre de déclaration, c'est qu'elle va être récupérée pour faire du mal à Israël en faisant de Monsieur Barnaby quelqu'un alors qu'il n'est personne, et en disant voilà, le professeur Barnaby, en insistant sur professeur, vient de dire ceci et cela. C'est évident que ça va être exploité, mais de toute façon la France est partie dans la mauvaise direction en oubliant une simple chose, c'est qu'on ne donne pas un État à un peuple sans lui donner en même temps les moyens de cet État. C'est très facile de déclarer en l'air donner un État, mais ne pas assurer la fondation de cet État avec les moyens nécessaires pour qu'il soit un État viable, solide et libéral, c'est trahir le peuple palestinien. Et en fin de compte, Monsieur Barnaby non seulement trahit Israël et le peuple israélien, il trahit son propre peuple, mais en fin de compte, il trahit la paix. Le plus grave dans tout cela, c'est qu'il trahit la cause de la paix en désignant un coupable au lieu de voir deux parties qui doivent s'asseoir ensemble, négocier dans la sérénité, dans l'entente et le dialogue. Tout ce qu'il trouve, c'est à déverser de fiel d'un vieux monsieur sur le retour qui est extrêmement, extrêmement néfaste à toute initiative de paix et d'entente entre les deux peuples.
Alors justement, et ce sera ma dernière question, Raphaël, Emmanuel Macron, hier, lors du dernier Conseil des ministres, s'est interrogé sur le timing de la reconnaissance et qui, après tous les reproches qu'il a eus depuis sa prise de parole. Et en échange de ça, non seulement il persiste, mais il dit que la communauté juive doit rester, comment je vais retrouver, fidèle à son universalisme.
Oui. Eh bien, j'espère que la France aussi le demeurera en dépit de son président actuel. Voilà, il y a une politique aujourd'hui du président français qui est contre Israël, contre un pays qui se défend, qui a été attaqué, un président dont les déclarations aussi sont irresponsables, car il sait très bien que ses citoyens juifs de confession juive souffrent des déclarations qu'il fait à l'égard d'Israël, qu'il accuse en même temps un pays et un peuple. Et donc nous sommes dans une situation extrêmement grave devant l'incompétence, la responsabilité. Je l'ai déjà dit, j'espère pour Monsieur Barnaby comme pour Monsieur Macron, ils sont plus bêtes qu'ils ne sont méchants.
Alors en tout cas, ça montrait bien également une fracture qui existe au sein même du gouvernement d'Emmanuel Macron. C'était Manuel Valls qui est ministre dans ce même gouvernement qui a demandé à Emmanuel Macron d'évaluer un risque de fracture entre le gouvernement et la communauté juive en France.
Je pense que c'est déjà fait. Je vois pas la communauté juive avoir une grande appréciation du président français. Le sentiment aujourd'hui chez beaucoup de juifs français est un sentiment de précarité, d'insécurité et d'incertitude à l'avenir surtout à leurs enfants qui sont en danger aujourd'hui même à l'école et avec un président qui en plus jette de l'huile sur le feu et donne des primes au Hamas, je pense que la communauté juive ne peut pas se sentir à l'aise aujourd'hui en France, tout en précisant qu'il s'agit que du président français, il s'agit en France d'une frange antisémite islamo-gauchiste, et que la majorité du peuple français demeure la belle France que nous aimons et que nous apprécions, et c'est dommage qu'elle soit trahie, et moi je connais, j'ai des amis français qui me le disent, ils se sentent trahis par la déclaration d'un président dont on sait aujourd'hui qu'il est très très, très impopulaire, qui n'a plus aucune légitimité par rapport au pourcentage de Français qui sont véritablement pour lui. Presque plus de macronistes en France.
Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes écrivain. Votre dernier livre, Tribune de guerre, est paru il y a peu de temps aux éditions David Reinhardt. Bonne journée à vous, ancien officier de renseignement militaire de Tsahal, évidemment. Bonne journée, à très vite.